Que pensez-vous du démantèlement du camp de migrants Place de la République à Paris?
Est-ce que c'est vraiment la peine de nous le demander? C'est horrible. Voilà ce qu'on en pense, c'est horrible. Enfin, la CIMADS a fait plein de communiqués de presse sur la question, etc. Mais d'une manière plus générale, celui-là, il s'est passé d'une manière vraiment assez spectaculaire et horrible. Mais d'une manière générale, les démantèlements de camps de migrants, on se demande vraiment à quoi ça sert. Les gens n'ont nulle part où aller. Donc, ils vont se réfugier, ils vont reformer. C'est ce qui se passe sans arrêt. Ça va se reformer quelque part. Ce n'est pas une solution. Et en plus, quand quelquefois, ça se passe entre guillemets bien, on appelle ça mise à l'abri. On fait monter les gens dans des bus et 3 jours après, ils sont tous dehors. C'est pas vrai qu'on les met à l'abri. Donc, c'est un véritable scandale. J'ai un ami qui m'a dit, mais imagine un lieu où il y aurait des centaines de chats affamés et sans... n'ayant rien à manger, mourant de froid, etc. Mais ça serait un scandale épouvantable, national, tout le monde hurlerait. Mais les migrants, c'est ça, ils sont coincés dans des lieux sans abri, sans rien à manger. Et qu'est-ce qu'on fait? On les asperge de gaz lacrymogène, on les assomme et on leur dit « allez vous mettre plus loin ». À quoi ça rime? Je veux dire, le problème n'est absolument pas réglé. Logiquement, humainement, ça n'a aucun sens.
C'est un traitement inhumain qui ne résout absolument rien à la question. Si ce n'est vouloir masquer aux yeux de la population une situation que vous pouvez vous voir à Toulouse. Vous avez qu'à vous promener à une époque pendant le confinement, c'était à côté des abattoirs, du musée d'art moderne, il y avait beaucoup de gens avec leurs tentes, mais surtout en traitant les gens d'une manière inhumaine.
Merci pour toutes ces précisions sur vos expériences. Nous avons effectué des recherches sur la CIMAD avec notre professeur documentaliste. Nous savons que l'association est composée de 90 groupes locaux réunis dans 12 régions et gérés par des bénévoles et des salariés. Nous souhaiterions vous interroger sur son fonctionnement. Comment la CIMAD est-elle financée?
Donc c'est 47% de subventions publiques, 36% de dons publics et 17% de ventes de produits et soutien des fondations. Les ventes des produits, on s'en occupe aussi avec des grands commerçants. Voilà, et en 2016, c'était près quand même de 9,7 millions d'euros le budget de la CIMAD au global.
On a des financements publics parce qu'on assure une mission d'intérêt public, accès aux droits des étrangers. Il y a des dons, il y a les cotisations. Là, je les vois pas, les cotisations.
Mais, enfin, ça ne doit pas être dons, je pense.
Énorme. Oui, c'est ça. Subvention, dons, cotisations et vente de produits.
Oui, par exemple, quand on parlait de mission publique, les personnels salariés de la CIMAD qui agissent dans les centres de rétention administrative sont des salariés qui répondent à un appel d'offres du gouvernement pour une mission de service public qui est déléguée à nos associations. Donc, pour ce faire, la CIMAD est rétribuée sur un contrat qui est passé avec l'État.
Quel métier exercent les salariés de la CIMAD et quelles sont les compétences et formations nécessaires?
Alors, les salariés de la CIMAD, on va parler du groupe, si on parle des salariés à Toulouse, c'est des salariés qui travaillent pour tous les groupes de la région, donc ce sont des salariés régionaux. Il y a un représentant de la CIMAD et des chargés de projet. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui veillent à la cohésion de tous les groupes. Ce sont des personnes qui préparent des formations, veillent à ce que soient respectés les principes de la CIMAD aussi, etc. Donc c'est une association nationale. En région, il y a des salariés qui représentent la CIMAD et qui vérifient que tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il faut comme formation? C'est très divers. Les salariés de la CIMAD actuellement, il y en a qui ont fait une formation juridique, il y en a qui ont fait des formations de psycho, il y en a qui ont fait des formations d'histoire géo, enfin c'est assez divers, les origines. Il n'y a pas de formation spécialisée dans le... Il y en a des formations spécialisées, il y a des masters en... Comment ça s'appelle, les masters qui est en droit humain, etc. Mais c'est pas forcément avec ça qu'on devient salarié de la CIMAD. Et après, au plan national, la CIMAD, c'est une organisation. Donc, comme toute organisation, il y a des gens qui font de la com, il y a des gens qui font de la comptabilité, il y a des gens qui font de la gestion, il y a des gens qui gèrent, qui aident au fonctionnement de la CIMAD dans divers domaines.
où se trouvent les locaux de la CIMAD à Toulouse.
À Toulouse, ça se trouve à Toulouse, c'est 16 rue Tivoli, près du Grand Rond. Donc là, on a un local avec une salle de réunion, des bureaux pour accueillir, des bureaux où se trouvent les salariés régionaux. Et voilà, c'est tout. Donc je dois dire qu'on essaye d'être discret. On n'a pas du tout un grand machin sur la porte, etc. On nous arrache régulièrement quand même l'étiquette adresse sur la boîte à lettres ou bien les petits avis qu'on met en bas. Là, en ce moment, on a un avis comme quoi on est fermé et qu'il faut nous téléphoner. Celui-là, il reste en place. Mais notre présence dans l'immeuble n'est pas très bien perçue. Les gens n'aiment pas voir passer des étrangers, bien qu'on soit au premier étage et qu'il y ait juste un escalier à monter et c'est tout. Donc on est là et on essaye d'avoir une présence discrète. Voilà.
Où intervenez-vous précisément ?
On reçoit les gens sur rendez-vous et après on intervient au centre de rétention. Alors au centre de rétention, il y a des salariés et des bénévoles. Bernard est un spécialiste du centre de rétention.
Non, je ne suis pas un spécialiste. On est un petit groupe de personnes, un groupe dit rétention, de bénévoles, je parle. Et dont le but, en fait, il y a un double but. Il y a un but de recueillir les témoignages afin d'essayer de les diffuser. Alors, on est dans cette phase d'approche en essayant de voir si on peut intéresser des radios pour diffuser des petites pastilles de témoignages. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de donner à ces personnes dans des situations difficiles, humainement parlant, un petit espace de parole. On se retrouve dans une petite cellule, un petit peu comme un parloir de prison. Mais encore pire, je dirais. C'est pas sympa. Mais au moins, ça leur permet de se lâcher. Même en parlant, voilà. Donc, on est un petit peu les récipiendaires de leurs états d'âme. Mais parce que nous, on n'agit pas en tant que conseiller juridique, en tant que bénévole, puisque cette mission est assurée par les salariés de la CIMAD qui sont au centre de rétention. Alors nous, on fait vraiment captage de témoignages et essayer de les diffuser et temps de parole.
Pendant un temps, on est beaucoup intervenu en accompagnant les gens à la préfecture. C'est-à-dire qu'on les accompagnait au guichet, parce que ce qu'on constate, c'est qu'au guichet, on raconte n'importe quoi aux gens. Donc, on les accompagnait pour dire, ben voilà, ou bien pour pouvoir témoigner qu'on avait refusé un dossier au guichet ou des choses comme ça. Donc ça, c'est devenu impossible en raison du coronavirus. On n'a plus le droit d'accompagner les personnes en préfecture. Ça, on ne le fait plus, mais ça nous arrive d'accompagner les gens dont on suit les dossiers auprès d'une assistante sociale ou divers organismes avec lesquels ils peuvent avoir des démêlés.
Travaillez-vous avec d'autres associations, si oui, lesquelles ?
Bon, oui, on n'est pas tout seul. On est un peu tout seul à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de l'accès aux droits. Ça, vraiment, c'est un secteur où il n'y a à peu près que la CIMAD qui fait ça. Après, on travaille avec des organisations plus... Bon, alors, les associations caritatives, bien sûr, on ne fait pas de caritatif, c'est-à-dire on n'a pas de couverture, on n'a pas d'argent, etc., etc. Donc on renvoie les gens, on les oriente vers les autres associations caritatives, Secours populaire, Secours catholique. On les oriente aussi vers les associations plus spécialisées dans le domaine de la santé. Et là, on a une association qui s'appelle la Case de Santé. Il y a Médecins du Monde. Il y a la PASS, enfin, c'est une permanence d'accès aux soins qui est à l'hôpital du coin. On oriente vers des associations aussi... Par exemple, il y a une association qui s'occupe des femmes victimes de violences, donc étrangères ou françaises, mais malheureusement, il y a beaucoup d'étrangères là. Donc on oriente aussi vers ces associations plus ou moins spécialisées. Il y a des associations spécialisées dans l'accès au droit dans l'aide aux personnes en situation de prostitution. On oriente aussi vers là. Donc il y a un réseau comme ça d'associations qu'on connaît, et vers qui on oriente les personnes qu'on peut suivre par ailleurs sur le plan administratif et juridique, mais on complète avec les autres associations toulousaines.
Merci beaucoup pour ces réponses sur l'association. Pour terminer, nous voudrions en apprendre un peu plus sur les migrants, les personnes auprès desquelles vous vous engagez. Pour beaucoup d'entre nous, nous les connaissons qu'à travers les réseaux sociaux ou les artistes qui abordent ce sujet. Savez-vous combien de migrants arrivent en France chaque année ?
On estime, enfin, on ne va pas parler hors coronavirus. Hein. On estime, ça va vous faire sursauter, qu'on dit qu'il y a environ 80 millions de personnes qui rentrent en France chaque année, 80 millions de personnes étrangères. Mais qui c'est ces personnes? C'est des touristes, c'est des étudiants, c'est des gens qui viennent pour des raisons professionnelles, etc. Donc il y a énormément de passages de frontières vers la France. Après, il y a une estimation, parce que par définition, c'est impossible à savoir, combien de personnes migrent réellement, c'est-à-dire qu'elles arrivent en France, quelquefois avec un visa de touriste de 3 mois, mais elles ne repartent pas. Donc ces personnes, on les estime à 300 000 à 400 000 personnes par an qui seraient dans cette situation en France. Et dans ces personnes-là, moi, ce que je vois souvent de mes permanences, c'est qu'il est tellement difficile de rentrer légalement en France et d'avoir un visa, que quand on veut venir et que par hasard on a eu un visa, quelquefois on ne veut pas repartir. L'exemple que je donne toujours, c'est la personne âgée. Ses enfants vivent en France en situation régulière. Il y a des petits-enfants. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un visa pour venir les voir. Quand par miracle, cette dame, cette grand-mère, qui est souvent veuve, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, jusqu'à nouvel ordre, elle vit toute seule en Algérie, au Maroc, tous ses enfants sont ici, ses petits-enfants sont ici, on ne la laisse pas venir. Quand par miracle, elle obtient, après beaucoup de difficultés, un visa touriste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle reste. Elle reste, et là, elle essaye de se régulariser. Beaucoup de gens essayent de se régulariser une fois sur place. Mais ce n'est pas possible. Donc elle reste, elle est en situation irrégulière. Je dis souvent que la PREF, elle les crée, les sans-papiers, parce qu'elle refuse des papiers à des gens qui ont toutes les raisons, prévues d'ailleurs par la loi, pour vivre en France. La vie privée et familiale, c'est un motif d'installation en France. Mais la préfecture ne veut absolument pas le reconnaître. Elle est tétanisée par l'idée de donner des papiers. Franchement, c'est ce qu'il faut dire.
Quelles sont les principales causes actuelles de migration et de quels pays viennent les migrants principalement?
Quand on dit les migrants, on peut comptabiliser les personnes qui demandent l'asile. Parce que ça, c'est enregistré, on connaît leur nationalité. Principale nationalité, en ce moment, c'est les Afghans et les Syriens. Pays en proie à la plus grande violence, donc ça tombe sous le sens, c'est eux qui viennent le plus. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent des pays du Maghreb parce qu'il y a des forts liens avec la France, puisqu'on parle français, etc. Donc, les anciens pays colonisés. Mais après, les autres, ça s'éparpille entre plein de pays. J'ai déjà été étonnée quand on fait le compte des gens qui nous appellent en permanence. Ne serait-ce que sur une après-midi, certes, on va avoir beaucoup de personnes originaires de Maroc, Algérie, Tunisie, pour les raisons que je vous ai dites. Mais après, on a des gens qui viennent de partout. Afrique noire, Amérique latine, Bangladesh, Pakistan, etc. etc. C'est vraiment, les gens peuvent venir de n'importe quel pays du monde.
Quelles sont les difficultés auxquelles les migrants sont confrontés à leur arrivée? Quelles sont les différentes possibilités pour eux lorsqu'ils arrivent dans notre pays?
Vaste question. Alors là, on va encore faire un peu la différence entre les gens qui viennent demander l'asile et les personnes qui rentrent comme ça, qui n'ont pas de motif précis de demander l'asile, mais qui veulent vivre en France. Donc les personnes qui viennent pour demander l'asile, leur principale difficulté, c'est qu'il y a absolument les services d'accueil qui sont censés accompagner les personnes qui demandent l'asile, sont complètement sous-dimensionnés, mais volontairement, je pense, enfin, j'en sais rien. Mais vraiment, l'infrastructure d'accueil des personnes en demande d'asile, elle est réduite au minimum et elle ne suffit pas à répondre aux besoins. En France, il y a à peu près 3 000 personnes qui travaillent sur les services d'asile. Et il y en a 6 000 en Allemagne, par exemple. Donc, les personnes, la première difficulté, c'est de vivre, d'avoir un logement et d'avoir un peu de sous. Voilà, ça, c'est... et c'est d'autant plus difficile qu'entre le moment où on arrive et le moment où on arrive à déposer une demande d'asile qui fait qu'on va pouvoir avoir quelques droits, toucher une allocation, par exemple, ou avoir une place dans un centre d'accueil, il y a du temps qui peut s'écouler. Donc, ça, c'est vraiment le problème numéro un des demandeurs d'asile. C'est l'absence de logement et de ressources. Après, les autres personnes qui arrivent, elles sont dans des situations différentes. Certaines, pas mal, viennent rejoindre des membres de famille ou des amis. Donc là, ils sont pris en charge, mais le problème reste entier. S'ils n'arrivent pas à obtenir des papiers, ils vont être à la charge de leur famille, de leurs amis, etc. Et au bout d'un moment, ça ne va plus coller. Donc voilà, ceux qui arrivent et qui ne sont pas entourés, pour eux, c'est la galère totale. Voilà. Il faut savoir que les migrants sans papier, ils ont deux droits. Avoir une aide médicale d'État, mais très encadrée, très, très encadrée. Et s'ils ont des enfants, scolariser les enfants. Après, c'est tout. Une personne sans papier, elle n'a aucun autre droit. Il faut que ça soit clair. Elle n'a aucun autre droit. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à survivre. Et de, au bout de 5 ans, 10 ans, quelquefois, finir par avoir des papiers. Ça, c'est la clé, c'est d'avoir un titre de séjour.
En effet, comme dit Françoise, c'est vraiment arriver à survivre à ses besoins. Et donc, derrière, il y a la notion de travail. Et ça, c'est la grosse difficulté et la grande volonté de tout ce que l'on reçoit. C'est les difficultés à leur donner le droit au travail. Et on est chez Kafka, là, parce qu'on peut régulariser les gens après un certain temps pour peu qu'ils aient trouvé du travail, mais à condition aussi de prouver que malgré qu'ils soient en situation irrégulière, ils aient pu travailler, à savoir dans des conditions illégales. Vous voyez un petit peu le système, un petit peu débile qui se met en place. Et il faut savoir que pour la majorité, pas majorité, mais pour beaucoup de cas, la processus de demande de titre de séjour, on ne leur donne pas le droit au travail. Dans la demande d'asile, la personne qui fait une demande d'asile, du moment où il a fait son dépôt, il n'a le droit au travail que si le traitement de son dossier dépasse 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, il n'a pas le droit au travail. Après 6 mois, il a l'autorisation, pour qu'il trouve du travail, à travailler. Et pendant ces 6 mois-là, on va lui donner une aide. Pour vous donner une idée, pour une personne simple, c'est environ 7 euros par jour. Et on y va y rajouter 7,40 euros pour se loger si on ne lui octroie pas un logement. Donc ça fait aux alentours de 14 euros par jour pour vivre, c'est-à-dire manger et se loger. Voilà. Et parce qu'on ne leur donne pas le droit au travail pendant 6 mois. Donc en effet, la plus grosse, comme dit Françoise, vraiment j'insiste là-dessus, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à subsister à ses besoins et on ne leur donne pas le droit de le faire. Mais au contraire, on va les sanctionner. Parce que... Alors, c'est ça qui est un petit peu stupide dans ce système-là. Et croyez-moi, cette volonté de travailler, parce que le fantasme comme quoi ils veulent profiter des largesses de l'État français, leur première chose, c'est de pouvoir travailler. Je me rappellerai toujours d'un Nigérian que j'avais accompagné à la préfecture, un colosse qui faisait 3 fois comme moi. J'avais fait le dossier, bon, bref, c'était du plein droit, il a eu son récépissé. Et quand il a vu, qu'il a compris qu'il avait le droit au travail, il a failli me prendre dans ses bras et m'écraser. Parce qu'il était tellement heureux. Plus par la possibilité de pouvoir travailler que d'avoir un titre de séjour à terme.
Quelles démarches administratives doivent-ils effectuer pour devenir citoyen français ?
Pour devenir citoyen français, avoir la nationalité française, il y a 2 conditions de base, 3 même. La première, c'est être présent en situation régulière sur le territoire régulière. Régulière, ça veut dire avec des papiers. Donc, situation régulière sur le territoire français depuis au moins 5 ans. Ensuite, avoir ce qu'on appelle des ressources stables et suffisantes. En gros, il faut avoir un CDI depuis 3 ans. Je le résume comme ça, mais dans les faits, ça revient à ça. Et ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle tout le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Si vous avez un conjoint qui est à l'étranger, ce n'est pas la peine. Donc, il faut vraiment prouver que toute votre vie est en France. Ça, c'est les 3 conditions. Après, il y a les conditions administratives perverses qui se mettent là-dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir demander une naturalisation, Il faut prendre un rendez-vous à la préfecture. Et qui veut prendre un rendez-vous à la préfecture, donc, va taper naturalisation, prise de rendez-vous. Et toute l'année, tous les jours, la réponse est « il n'y a pas de prise de rendez-vous possible, renouvelez votre demande ultérieurement ». Donc, pratiquement, c'est presque pas possible d'arriver à demander la naturalisation, même quand on répond aux conditions, pour ces raisons d'absence de rendez-vous proposé. Et là, la Haute-Garonne se met en avant parce que c'est une des pires de la France, la préfecture de la Haute-Garonne, oui, pour l'absence de rendez-vous de naturalisation. Après, quand on a réussi à avoir un rendez-vous, qui est donné en général une année plus tard que le moment où on le prend, c'est-à-dire là, on est au mois de novembre, si on réussit à tomber sur le moment où la préfecture va avoir jeté 10 rendez-vous disponibles, si par miracle on est dessus au bon moment, le rendez-vous il sera pas avant novembre de l'année suivante. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour obtenir une naturalisation. Après, il y a quand même quelques cas où on peut l'obtenir un peu plus vite, enfin un peu plus vite, oui, c'est quand on est né en France et qu'on arrive à l'âge de 13 ans. Là, on peut se faire naturaliser sur demande des parents. À l'âge de 16 ans, on peut se faire naturaliser sur sa propre demande. Et à l'âge de 18 ans, si on n'a pas quitté la France, bien sûr, on peut devenir français automatiquement. Mais pour les personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont là en situation régulière, qui ont CDI depuis des années et qui veulent se naturaliser, il y a l'obstacle énorme de l'absence de rendez-vous.
Simplement, je ne suis pas atteint de phobie administrative, mais je ne suis pas comme Françoise aussi à l'aise dans ce genre de dossier. J'en ai deux en préparation actuellement et franchement, ce sont des dossiers administratifs d'une complexité et d'un point de détail absurde demandé par l'administration qu'on peut comprendre que les gens, de par l'absence de rendez-vous et la difficulté de monter un dossier, abandonnent à terme.
Dans le dossier, effectivement, il faut aussi prouver qu'on parle, qu'on lit et qu'on écrit le français. Bon, c'est un. Et après, il y a un interrogatoire au moment du rendez-vous, hein, sur plein de questions auxquelles je ne saurais sûrement pas répondre moi-même. Mais il y a un test au moment du rendez-vous qui fait que les personnes... c'est un obstacle supplémentaire.
Françoise, Bernard, il est temps de conclure notre interview. Encore un grand merci de votre disponibilité et vos réponses qui nous ont bien appris. Avant de vous laisser le mot de la fin, nous avons une dernière question. À notre niveau, en tant qu'enfant élève, comment pouvons-nous aider les migrants ?
En n'ayant pas de préjugés. Je crois que ce qui tue tout le monde, c'est les préjugés sur les migrants. On voit des gens, on voit des masses là, de jeunes cagoulés, ça fait peur à tout le monde, mais c'est pas vrai. Les migrants, c'est pas ça. C'est des personnes comme vous et moi. Voilà, donc essayez de n'avoir aucun préjugé sur les personnes, qu'elles soient étrangères ou autres, d'ailleurs.
Rien de plus. Petite question, je pose à chaque fois. Est-ce que vous savez, pour ceux d'entre vous, si vous êtes originaire d'un pays étranger, c'est-à-dire que par vos parents, vos grands-parents, s'ils sont d'origine étrangère, pour voir?
Eh bien, quand même, hein.
Voilà. Alors, je vais vous dire très simplement, c'est systématiquement...
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà.
Vous êtes concernés,
hein. Vous parlez avec vos parents.
Ça parle, naturellement.
Merci beaucoup. Merci.